Alors on commence. Alors vous avez des Mishnayot Pesachim. Ce soir, on va faire Perek Arve Pesachim. C'est le Perek qui parle de la nuit du Pesach. Tout le Seder du Pesach, il est dans Arve Pesachim. Mais avant de faire le Perek la Gemara, nous allons faire la Mishnah. Alors vous êtes tous là? Je peux commencer? Moshe, tout le monde entend?
Normalement, oui.
Oui, alors ceux qui m'entendent, qui font le doigt comme ça.
Ils sont aux armes, les gens.
Voilà, ceux que je vois, ils font le doigt comme ça. D'accord, alors. Je aussi. D'accord, je suppose. Pourquoi certaines je vois et certaines je ne vois pas? Pourquoi?
Parce qu'il y a trop de monde.
Et pourquoi certaines je vois et certaines je ne vois pas? Les gens qui je vois.
Ah, vous parlez de la vidéo? Il y en a qui ne sont pas en vidéo.
Ah, certains qui n'ont pas mis les vidéos. D'accord, mais c'est bien. D'accord. D'accord, alors je commence. Alors nous commençons. Mishnayot Pesachim, le dernier Perek. Perek Yud. Je commence la Mishnah. Arve Pesachim, la soirée de Pesachim, de Pesach. Sarmouch la Mincha, proche de Mincha. Ça veut dire proche, ça veut dire une demi-heure. Mincha, c'est le zman de Mincha. C'est quoi le zman de Mincha? C'est le zman que les gens, ils avaient la coutume au Beth Amikdash de sacrifier le korban Mincha. Normalement, le korban Mincha, le mouton de l'après-midi, on l'apporte 2h30 avant la nuit. Donc, 2h30 avant la nuit, on l'appelle ça Mincha, parce qu'on fait normalement le korban Mincha. Alors, la Mishnah nous dit, Arbe Pesachim, la veille de Pesach, Samouch le Mincha, quand on arrive proche de Mincha, proche, ça veut dire une demi-heure. Avant, une demi-heure avant Mincha, lo yochal Adam achetech shach. L'homme, il ne doit pas manger tant que la nuit n'est pas tombée. Une fois que la nuit est tombée, il peut manger. Qu'est-ce qu'il peut manger? Bien sûr, il faut manger de la matzah. La mitzvah de matzah, on ne peut l'accomplir une fois que la nuit est tombée, parce qu'il est marqué dans la Torah, Erev Tochlou Matzot. Donc, ceux qui veulent mekayem la mitzvah de matzah, ils doivent attendre jusqu'à la soirée. Et maintenant, la Mishnah nous dit que même l'après-midi, on n'a pas le droit de manger. Pourquoi on n'aura pas le droit de manger? Parce que si on mange, ça rassasie. Et si on est rassasié, on va manger après la matzah quand on est rassasié. Un homme qui mange quand il est rassasié n'a pas un grand kiff de manger. Et manger la matzah, c'est une mitzvah. Manger la matzah, c'est une mitzvah. Et une mitzvah, il faut faire avec un kiff. Pas seulement un kiff rouhani, même un kiff gashmi. Une mitzvah se fait avec un kiff, avec reshek. Donc, comme manger la matzah quand on a faim, c'est un kiff. Donc, il y a une mitzvah de manger la matzah avec un kif. C'est pour ça, Chachamim, ils ont dit, la veille de Pessah, tu ne manges pas trop. Et à partir de 3 heures avant la nuit, tu ne manges plus rien. Arbe Pessahim, samouch le mincha, proche du mincha, c'est-à-dire une demi-heure avant mincha, tu ne manges plus rien. Achetercha, jusqu'à la nuit tombe, afin tu auras de l'appétit. Maintenant, de nos jours, on a la coutume que ce n'est pas quand elle tombe la nuit que tout de suite on mange. Chez nous, quand tombe la nuit, on raconte le seder, la Haggadah, c'est toute une histoire, comme après la Mishnah nous raconte. Donc, normalement, là, on entame la matzah que 2 heures après. Donc, ça va ajouter encore un petit peu plus pour l'appétit. C'est bien, bien. Comme ça, on mange vraiment la matzah avec de l'appétit. Alors, la Mishnah commence à Arve Pesachim. Le mot Pesachim, c'est un pluriel. Mais normalement, il y a un Pesach. Il y a une nuit de Pesach. Pourquoi Pesachim, c'est double? Alors, tu vas dire pour Chutz La'aretz. Arve Pesachim pour Chutz La'aretz. Mais ça, c'est pas si pachoute. Est-ce que vraiment, le premier jour de Pesach, l'après-midi, on n'a pas le droit de manger parce qu'il faut manger la matzah avec beaucoup d'appétit? Il y a un Magen Avraham qui dit que toujours le premier jour de Yom Tov et après un deuxième jour de Yom Tov de Chutz La'aretz, il ne faut pas manger trop l'après-midi Pourquoi? Parce qu'il faut manger la souda de Yom Tov après avec appétit. Et le Mishneh Berurah dit c'est pas si sûr, parce que le premier jour de Yom Tov, c'est Mina Torah. Le deuxième jour de Yom Tov, c'est Mida Rabbanan. Alors, doit-on se priver dans une mitzvah à Yom Tov l'après-midi, qu'est-ce que de Raïta, afin de manger avec l'appétit un souda du deuxième jour qui est Mida Rabbanan? C'est pas possible, il dit le Bir Halakha. Alors, c'est possible que les Bir Halakha y parlent seulement pour les autres Yamim Tovim. Mais par contre, en ce qui concerne Pessah, comme il y a une mitzvah spéciale de Matzah, c'est pour Matzah, malgré que la deuxième nuit, la Matzah Mida Rabbanan, et manger le premier jour, c'est une mitzvah minatorah de Simchat Yom Tov. Peut-être ça vaut la peine de metzamtzem la Simchat Yom Tov du premier jour afin de manger la mitzvah de Matzah avec. Si vous voulez poser une question, vous écrivez au chef. Moshe Uzan, c'est le chef. Vous pouvez écrire un Hehara. Je ne sais pas si vous savez comment on fait le Hehara. Moshe, tu es là. Tu leur dis comment ils doivent agir s'ils veulent dire un mot. Oui.
Ben, soit ils m'envoient un message en privé, soit ils lèvent la main éventuellement.
Mais je ne connais pas ton numéro. Tu peux donner ton numéro?
Ben, je m'appelle normalement Yehiel Brand. C'est un peu difficile, mais bon.
Tu envoies à moi?
Non, parce que je suis connecté aussi à votre compte. Donc, il y a les deux.
Ah, alors donc, il doit ce compte-là.
Voilà.
Non, mais quel numéro il va envoyer son message?
À moi, il y a marqué. Envoyer à... Il y a des noms, il m'envoie à moi.
D'accord. Donc, si vous avez, vous voulez m'arrêter pour une chose qui est intéressante...
Nous, ils peuvent lever la main.
Alors, envoie... Non, mais lever la main ne suffit pas parce que la majorité, ils n'ont pas... Je ne vois pas leur visage.
Non, ils peuvent lever la main. Voilà, comme il fait le monsieur. Vous voyez une main là? Steve Habib, il y a une main. Vous voyez?
Oui, mais lui, par hasard, il est. Mais la majorité des gens, on voit pas leur visage.
Non, David, pas comme ça. Il y a un onglet pour lever la main. Tu peux trouver cet onglet. Il y a un endroit où on peut lever la main. Cherche, tu vas voir. Et il monte tout en haut de la file chez moi. Voilà, David Zetoun a levé la main. Donc il monte
non,
en haut.
Il
de
ne
la
faut
file.
Pas. Il faut pas lever la main. Faites-le en envoyant un message. C'est mieux. Envoyez un message que vous voulez dire quelque chose. Alors, on continue. Alors, Arbe Pesachim. Pourquoi il est marqué ici Pesachim pluriel? Quelle est la raison qu'il y a un pluriel? Alors, Pshat Pashut, il est que c'est Pesach Rishon et Pesach Sheni. Les deux choses sont Minatora. Alors, Pesach Rishon, c'est Minatora. Pesach Sheni, c'est Minatora. Et donc, le Pesach Sheni qui est le 15 Iyar. Alors, la veille, ça veut dire le 14 Iyar, on fait la Shrita du Korban Pesach Yerushalayim. Eh bien, pour ce Pesach Sheni, il faut manger la matzah avec appétit. Malgré qu'on a le droit de manger chametz. Le Pesach Sheni, c'est permis de manger chametz. Mais manger la matzah, c'est une mitzvah. Manger la matzah, c'est une mitzvah. Et c'est donc, c'est une mitzvah de le manger avec kif. Donc, c'est pour ça, la mitzvah de ne pas manger la veille de Pesach, elle est aussi pour Pesach Sheni. Maintenant, le premier mot de la Mishnah, c'est le mot « arvé ». Arvé, ce sont les soirs. Alors, si on dit les soirs, Pesachim de Pesachim, ça peut aussi être le Pesach Rishon et le Pesach Sheni. Alors, on va continuer. Va filou aniche b'Israël, même si un homme est pauvre. Lo yochal atchiyasev. Il ne faut pas qu'il mange la matzah, donc il n'est pas meisev. Qu'est-ce que c'est meisev? Oui.
Alors.
Oui.
Une seconde.
Ah, docteur Hervé Halimi, il dit c'est marqué RF. Vous avez une Mishnah ou c'est marqué RF? Vous avez raison, docteur. Il y a deux Girsaot dans la Mishnah. Il y a une Girsa RF Pesachim et une Girsa Arve Pesachim. Bien vu. Il y a deux Girsaot.
La question de
C'était la même. Dans la Gemara, c'est marqué RF
Pesach. D'accord. Donc, il y a deux Girsaot dans la Mishnah. Le pshat que j'ai donné, c'est Tosot, il apporte. Tosot, il avait déjà deux Girsaot, RF et Arvé. Tosot, il dit, selon la Girsa Arvé, c'est Pesach Rishon et Pesach Sheni. Afilu Anish, je continue la Mishnah. Afilu Anish et Israël, même un pauvre juif, le Yochal ne doit pas manger Atchiasep jusqu'il est accoudé. Alors, accoudé, à l'époque de la Torah, à l'époque du Chumash, à l'époque de la Mishnah, à l'époque de Nevi'im, c'était sur un lit avec une petite table à côté. Les gens, ils étaient couchés sur la côté gauche avec une petite table à côté, comme ça, ils mangeaient. Si vous voulez avoir une bonne illustration, il vous ouvrez Maserhet. Comment il s'appelle? Il y a dans cette Maserhet, il y a Maserhet Astérix. Dans Maserhet Astérix, avec Julius César, comment s'appelle? Quel Maserhet c'est déjà? C'est la décadence des Romains. Là-bas, il y a très beau, c'est vraiment le sens de la Gemara de Meïsef. C'est les aristocrates. Les aristocrates, quoi?
Quetzal se dérisse bas.
Voilà. Alors, donc là-bas, on est Meïsef. Alors maintenant, la Mishnah nous raconte, même un pauvre doit manger que Meïsef. Il ne faut pas qu'il se mange sur un tabouret. Il ne faut pas qu'il s'assoie sur un tabouret. Il ne faut pas qu'il s'assoie par terre sans accouder le dos. Il faut vraiment qu'il fasse un kiff comme les millionnaires. Pourquoi la Mishnah nous dit ça? Parce que j'aurais pu croire que le pauvre, il est pas tour. Mais un pauvre doit faire la mitzvot comme un riche. Quel est le chidush? La Torah, elle est donnée aux riches et aux pauvres. On nous dit un chidush que même un pauvre. Mais le pshat, il est, parce que les pauvres, ils se sentent un peu bizarres quand ils sont accoudés. Il n'a jamais eu ça. C'est un peu, ça ne lui correspond pas. Il va se sentir un peu dépaysé. J'aurais pu croire, le pauvre, il est toujours assis sur un tabouret, il est assis par terre, il mange comme ça. Pour lui, ça ne veut rien dire. Alors la Mishnah dit, non monsieur, aujourd'hui, vous êtes millionnaire, vous êtes un enfant juif, vous êtes partie du peuple juif qui est sorti, vous n'êtes plus un esclave, vous êtes aujourd'hui un Ben Hurin, un homme souverain, vous ne devez rien à personne et faites-vous un kiff. Donc, la Mishnah nous dit, même un pauvre, il ne faut pas qu'il mange la matzah à Tcheisef, donc il ne s'est pas bien installé avec des coussins, des matelas, comme il faut. Il ne faut pas lui diminuer moins que 4 coupes de vin. Alors ici, la Mishnah nous cite déjà le din des 4 coupes, les fameux 4 coupes de vin que Chachamim ont instauré. C'est un takana Chachamim in Torah, c'est le Korban Pesach qu'il faut manger, c'est la matzah qu'il faut manger, c'est le maror qu'il faut manger. Mais les 4 coupes, c'est un takanat chachamim. Pourquoi le vin? Parce que bénir Dieu, faire des louanges à Dieu, on fait toujours avec le vin. Là, on bénit Dieu, on fait kiddush Shabbat, on fait avec le vin, on fait kiddush Yom Tov avec le vin, on fait un mariage avec du vin, on fait un brit milah avec du vin. Toujours quand il y a une joie, on fait avec du vin. Mais ici, il y a 4 coupes. Ça, c'est spécial. Normalement, il y en a un couple. Et s'il y en a 4, pourquoi il y en a 4 couples? La Gemara Yerushalmi dit, parce que c'est marqué dans la Pasuk, Vrotzeti etrem, mitachat tiblot mitzrayim, Vrotzeti veitzalti velakachti, Vrotzeti veitzalti vegaalti velakachti etrem l'ilam. Il est marqué que Dieu nous a sorti du Shibud, il y a 4 expressions. Et ces 4 expressions devrait amener le lecteur dans une extase toujours plus et plus. Et le vin, c'est une expression à l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, je ne sais pas. À l'époque de la Gemara, le vin rendait joyeux. Aujourd'hui, le vin ne rend pas très joyeux. Il dérange le cerveau des gens. C'est aujourd'hui, le vin, ce n'est pas du vrai vin. La Gemara nous raconte, depuis le Chorban du Beit HaMikdash, le vin, il a perdu le goût. Aujourd'hui, c'est simplement un poison que les vinicieux, ou je ne sais pas comment ils s'appellent, de Bordeaux et de comment ils s'appellent, Chasselou, que tous me pardonnent, mais c'est comme ça. Le vrai vin, c'est à l'époque de la Gemara. Et ce vin, c'était comme un peu une drogue, ça donnait une immense joie. Et 4 coupes pour monter la joie, toujours plus et plus pour remercier Dieu. Donc, ils ont instauré qu'on fait 4 coupes de vin. Si maintenant quelqu'un ne supporte pas le vin, il veut faire jus de raisin, après la majorité des rishonim, il peut utiliser le jus de raisin aussi. Il y a des rishonim qui disent que non, on est obligé de prendre de l'alcool. Il y a des rishonim, et c'est comme ça la halakha, que si on prend de jus de raisin, aussi on est yotzé. Vous voyez, qu'est-ce que vous dites? Vous avez le droit, oui.
L'histoire de vin, je pourrais donner une autre explication, mais c'est une base. Aujourd'hui, il existe des vins qui donnent la joie, mais ils sont intouchables pour l'Europe. Il y a des bouteilles de vin d'exception, comme par exemple le Nuit Saint-Georges de cette année, qui sont vendus
23 000 euros
d'accord.
La bouteille. D'accord, Bessédor, je continue. Bessédor, d'accord. Il ne faut pas diminuer moins que 4 coupes de vin. Donc, il faut 4 coupes. Pourquoi? Quel est le chidouche de la Mishnah? Qui c'est l'eau? L'eau, c'est le pauvre. Avant, on avait dit, même le pauvre, il doit manger à couder. Donc, quand la Mishnah nous dit, il ne faut pas diminuer pour lui, à qui on parle? Diminuer, il ne faut pas pluriel. Il y a un pluriel dans la Mishnah. Des gens ne doivent pas diminuer. Donc, ces gens sont les gens du Gmilat Hasadim. Dans chaque juif, dans chaque ville, où il y a une communauté juive et une caisse de Gmilat Hasadim. Comme il dit le Rambam, il n'a jamais existé dans le peuple juif, on n'a pas entendu une communauté qui n'a pas une caisse de tzedaka. Et normalement, il y a deux caisses de tzedaka. Une, elle s'appelle Kupa, et une s'appelle Tamrui. La Kupa, c'est la caisse où on distribue une fois par semaine de l'argent pour les pauvres, pour qu'ils peuvent acheter pour eux-mêmes, quoi manger pour une semaine. Et le Tamrui, c'est la soupe populaire, qui est un endroit dans la ville où les pauvres des pauvres, ils arrivent et ils mangent là-bas. Ils mangent le repas. Tamroui, c'est qu'on mange là-bas le repas dans la communauté, mais on ne distribue pas d'argent. Et après, il y a une caisse qui distribue. Quoi?
On a une question.
Je n'entends pas.
On a une question. Enfin, ça fait déjà 10 minutes. Pouvez-vous mélanger du vin blanc et du vin rouge où il y a un interdit de colorer?
En principe, il n'y a pas de coloration pour les boissons. Étant donné qu'il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat, qu'on a le droit de faire passer un jaune d'œuf par un tamis afin de colorer la moutarde, pour que la couleur de la moutarde sera un peu plus belle, et la Gemara demande, mais c'est interdit, il va colorer la moutarde. La Gemara nous dit, Ein tzviya b'ochlin, il n'y a pas de coloration chez les aliments, il n'y a pas d'interdiction de colorer les aliments. Quelle est la logique? Parce que l'interdiction de colorer, c'est un objet. J'ai une table, j'ai un mur, j'ai une voiture. Et la couleur donne la classe à cette voiture. Mais le manger, c'est la couleur n'est pas importante. Il y a une vieille question que l'achronim il demande sur cette halakha. Il y a une machloket rav et Shmuel vis-à-vis de Hashochet, ton père est klal gadol. Hashochet, un homme qui fait la shrita Shabbat, c'est une avera. Quelle est la avera? Machloket rav et Shmuel. Selon un, c'est Mishum Netilat Neshama, parce qu'il a pris une âme, ça c'est bien connu. Mais un autre amoura qui dit, il n'y a pas que Netilat Neshama, il y a un deuxième issour. Le deuxième issour, c'est coloré. Parce que le sang va colorer la viande. Alors, tout le monde y pose la kushya. Ici, la Gemara nous dit pour le jaune d'œuf, qui est sur la moutarde, il n'y a même pas d'issour de rabanan. Il n'y a ni issour de raïta, ni issour de rabanan. Et comment ça se fait qu'il y a un amoïre rab ou Shmuel, un des deux qui dit, je pense Rav, qui dit, c'est assour minatora de colorer la viande. Et l'achonim, il répond que le pshat, il est. Ça dépend si c'est avant la vente ou après la vente. Les gens qui vendent la viande, ils veulent que le client, il a, quand la Mishnah parle du vin, elle parle du kiddush. On va tout de suite arriver. Où j'étais? La viande. La viande qu'on colore, c'est le vendeur, le boucher, il veut vendre de la viande fraîche. Et quand la viande, elle a du sang, le sang, il est une rouge écarlate, les couleurs sont bien fortes. Et après 1, 2, 3 jours, la couleur, ça perd la couleur. Donc, le vendeur, il veut montrer au client que la viande est bien fraîche. Et là, il y a vie colorée. Et même d'après le mandat Amar qui dit que ce n'est pas Minatora, même Islam, il est d'accord qu'au moins Midera Banane. Par contre, quand j'ai déjà acheté et je vais manger de la moutarde, je vais mélanger de la moutarde avec mes autres aliments, si la moutarde maintenant, elle est verte ou elle est jaune, c'est une petite différence. Je préfère qu'elle sera jaune. Donc, on met dedans le jaune d'œuf parce que je préfère un peu qu'il sera jaune, mais ce n'est pas très important. Et comme ce n'est pas très important, donc on dit « ein zviab ochlin ». Donc, l'ichoa, faire un thé, faire un café, que tu mettes l'eau dans le café ou le café dans l'eau, l'ichoa, c'est pas d'afkuin. Il y a peut-être des achronim qui sont rochechim, mais ikeradin, il n'y a aucune différence. Maintenant, il y avait ici une question. Qui est-ce qui a posé la question? Est-ce que le vin de la Mishnah, il parle du kiddush? Eh bien, la Mishnah parle de quatre coupes. Il est marqué dans la Mishnah « Arba kosot shel yain ». Donc, « Arba kosot shel yain », le premier kos, c'est le kos de kiddush. Le deuxième kos, c'est le kos de Gaal Israël. On verra plus tard dans la Mishnah. Le troisième kos, c'est le kos de Birkat Amazon. Et le quatrième kos, c'est le kos de Halel. Alors, on va continuer. Maintenant, la Mishnah nous dit, vous, le Gabay de Tzedaka, vous devez lui donner quatre coupes. Ne dites pas, oui, c'est un pauvre qui mange minatam choui, ça veut dire le plus pauvre. On lui donne le minimum pour survivre. Mais arba kosot, il n'a pas besoin d'arba kosot, ça c'est un luxe. On dit non. Arba kosot, c'est important, ce n'est pas un luxe. Même le plus pauvre des pauvres juifs, il a le droit d'avoir arba kosot. Donc, le gabay tzedaka doit faire attention qu'à filomina tamchoui, même un pauvre qui mange du tamchoui, c'est vraiment le pauvre des pauvres, il faut que le gabay tzedaka, il lui donne. C'est pour ça le yifratu. Yifratu, c'est un pluriel, c'est-à-dire les gabayim. C'est bien qu'il y a plusieurs gabayim parce que des fois, un gabay peut être surmené. Il veut oublier, il y a un pauvre dans la ville, il peut oublier, donc il faut plusieurs gabaïm. Lui, il se rappelle de ce pauvre, lui, il se rappelle de ce pauvre. Donc, lo yifratu lo, il ne faut pas qu'il diminue à lui, au pauvre, mais arba kosot shelyain, va filomina tamchoui. Maintenant, les enfants, est-ce que les enfants sont obligés de boire arba kosot? Il y a dans la Gemara, après la chita de Rabbi Yehuda, que les enfants sont patour. Parce que les enfants ne supportent pas le vin, alors dans ce cas-là, il est pas tour. Alors, il y a quelqu'un qui veut parler? Moïse, tu vas? Moïse, il est
oui,
pas là.
Il y a quelqu'un qui veut parler. Dans ce cas-là, si une coupe est pour le kiddush de jour, du jour, dans tous les cas, on l'aurait fait. Donc, c'est pas un luxe. Et deuxièmement, la coupe du birkat aussi. Très clair.
J'ai pas dans compris. Ce qu'est-ce que tu as dit? J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu as dit?
Moi non plus. Il n'y a pas de virgule. Dans ce cas-là. Si une coupe est pour le kiddush du jour, dans tous les cas, on l'aurait fait. Donc, ce n'est pas un luxe.
Bon, bon. J'ai rien compris. C'est de la Kabbalah. Moi, je ne fais pas un cours de Kabbalah. Alors, oui, qu'est-ce que vous dites, docteur?
C'est que oui. Pour le boucher, c'est interdit de, le sang parce que ça colorie la viande. Et donc, ça crée une augmentation d'activité de son métier, et donc à ce titre-là, ça augmente la qualité de sa façon de travailler sur son métier, et ça devient un interdit, alors que quand le particulier colore.
Oui, j'ai compris, c'est pas ça la différence. Selon vous, l'interdiction, c'est parce que c'est du commerce. Mais l'interdiction du commerce, on n'est pas lapidé pour ça. Ce qui fait du commerce. Par contre, ce qui fait la shrita d'après les shita de Rav, il est rien pour colorer parce que c'est assourmi la shita mishum colorer. Alors, je continue. Mazgulokos rishon. On lui remplit donc le premier coupe. Donc, la Mishnah suit. Tous les Juifs, ils arrivent à la maison la nuit du Pessah. Mazgulo, on va lui remplir kos rishon. Le mot mazgou. Qu'est-ce que ça veut dire « mazgou » En vérité, « mazgou » ne veut pas dire « remplir ». Le mot « mazgou » ça veut dire « mélanger ». Mélanger. Mélanger quoi ? mélanger de l'eau avec le vin. Étant donné qu'à l'époque de la Gemara, le vin, on ne pouvait pas le boire comme ça. Le vin, il était archi fort, c'était de folie. On ne pouvait pas le boire, personne ne le buvait comme ça. Le vin, à l'époque de la Gemara, était complètement différent. Mais il fallait ajouter soit 2/3, soit 3/4 de l'eau. Sinon, il n'était pas buvable. Et donc, cette mélange, on l'appelle mazgou. Donc, mazgou lo kos rishon, le premier coup. Bet Shamay Omrim, la maison de Shamay dit, Mavarech alayom. D'abord, il fait le kiddush, Asher bachar banu mikalam, ואחר כך מברך על היין, הפרידי ברוך את השם אלוקנו, מלך העולם, בורא פרי הגפן, ובית הלל אומרים, מברך על היין, דבור יפה שור לבן, ברוך את השם אלוקנו, מלך העולם, בורא פרי הגפן, אחר כך מברך על היום, איפיני ברוך את השם, מקדש השבת, להלכה, תומודיקונה, להלכה כמבית הלל, כמנו לפזון, ופה תוז'ור בורא פרי הגפן, ואפרי ופה לקידוש היום. La raison de ces machloket sont citées dans la Gemara Brachot déjà. Il y a un Mishnah dans Brachot, c'est déjà cité tous ces lignes. Alors, on va continuer Mishnah Gimel. Et Viou le Fanav, maintenant on apporte devant lui. Qu'est-ce qu'on apporte devant lui? Devant le Balabait, on apporte quoi? On apporte des légumes. On apporte des légumes. Metabel, metabel, ça veut dire on trempe les légumes dans de l'eau salée. Ou dans une espèce de condiment. Bachazeret. Chazeret, c'est une espèce de maror, mais ça peut être en n'importe quel légume. Ça peut être un radis, ça peut être un carpas. Chez nous, on appelle ça carpas. Carpas, ça s'appelle en français crapas. En arabe, crapas veut dire du céleri. Alors, chez nous, les Sfaradim, on a la coutume de prendre du céleri. L'Ashkenazim, ils prennent ou des radis ou des pommes de terre. Pourquoi les Ashkenazim, ils ne suivent pas le minhag de crapas? De, je ne sais pas pour quelle raison ils ne prennent pas de crapas. Peut-être ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est crapas. Peut-être en Pologne, on ne savait pas, mais il n'y avait pas un juif qui parlait l'arabe. Je ne sais pas. Ou peut-être il n'y avait pas pendant Pessah, ça ne poussait pas, ce n'était pas le bon moment, ou ils étaient pleins de verre, peut-être le céleri. Je ne sais pas. Alors donc, metabel bachazeret. Donc, ce carpas, ce légume, on le trempe. Quelle est la raison qu'on le trempe avant le manger? Pourquoi on le trempe? C'est pour que les enfants posent la question. C'est quoi ça, papa? Pourquoi tu trempes ça? Donc, les enfants vont poser la question. Donc, la nuit du Seder, il est très important que le papa ne raconte pas simplement son monologue, mais que c'est un dialogue. Il faut que les enfants posent les questions. Donc, ils ont instauré la façon comment faire le seder, de façon que les enfants ils posent des questions. Mais à notre époque, Baruch Hashem, les enfants ils connaissent tellement bien le seder que quand ils mettent le carpas, c'est eux qui disent à papa, tu sais pourquoi on met le carpas? Parce que les chachamim, ils ont voulu que je te pose une question. Mais en tout cas, les chachamim, ils ont réussi leur coup. Et aussi les parents, aussi les enfants, ils savent que le seder n'est pas un simple soirée. C'est une soirée. Ah, oui.
Est-ce qu'on doit se forcer à boire le vin si on n'aime pas?
Oui.
Pour la mitzvah.
Oui. On doit se forcer. Maintenant, on peut prendre du jus de raisin aussi. Ceux qui ne supportent pas le vin, j'ai dit, la majorité des poskim disent qu'on est yotze avec du jus de raisin. Mais si on n'a pas de jus de raisin, il faut se forcé. Si on tombe malade, on n'est pas tour. C'est comme ça le marqué dans l'acronyme. Maintenant, si on ne tombe pas malade, mais on a mal à la tête, ça c'est la question. Jusqu'à où il faut les Messirot Nefesh? L'Yerushalmi raconte que Rabbi Yochanan, il buvait les 4 coups Pessah, il avait mal à la tête jusqu'à Shavuot. Mais est-ce que c'est une halakha vraiment qu'on est obligé de se Messirot Nefesh, même qu'on a mal à la tête pendant 7 semaines? Je ne sais pas, peut-être c'est Midat Hasidut. Lui, il faisait même qu'il avait mal à la tête. Et mal à la tête de Rabbi Yochanan, ce n'est pas Pashut. Rabbi Yochanan était le Rosh Yeshiva. Normalement, le Rosh Yeshiva a mal à la tête quand il n'a pas d'argent. Mais en plus, on lui a ajouté mal à la tête de 4 coupes. Mais c'est possible. Quand on est malade, on n'est pas obligé. Qu'est-ce que tu dis?
Si on préfère le jus de raisin, mais on peut supporter le vin, mais on n'aime pas, mais on préfère le jus de raisin, c'est quoi qui est mieux?
Alors, ça dépend. D'après les Rishonim qui disent que le jus de raisin est autant bien que le vin, alors c'est mieux des jus de raisin. D'après les Poskim qui disent qu'on ne peut pas avec les jus de raisin, alors c'est mieux le vin. Et si on a un doute et on ne sait pas quel Rishon, alors peut-être c'est mieux le vin. Mais nos jus de raisin, en vérité, il y a un machloket achronim si c'est kasher. L'expression de la Gemara, Sochet Adam Eshkol Anavim Be'echad, un homme il peut acheter d'une grappe de raisin, il le presse et il fait qu'il douche dessus. Et donc, ça veut dire quoi? La veille de Shabbat, la veille de Yom Tov, il écrase les raisins, il fait du jus de raisin et ça s'appelle pour le prix à Geffen. Ah, il n'y a pas d'alcool, mais ça peut devenir d'alcool. Mais notre jus de raisin, il est pasteurisé. Une fois que c'est pasteurisé, ça ne peut plus devenir alcool. Alors, il y a des achronimes qui disent qu'on ne peut pas faire kiddush dessus. Et la majorité d'achronimes, il me semble, disent qu'on peut, oui, faire kiddush dessus. Alors, ceux qui supportent le vin sans s'endormir, mieux vaut faire le vin pour deux raisons. D'abord, il y a des achronimes qui disent qu'il faut du vin, pas jus de raisin. Et deuxièmement, il y a des achronimes qui disent que le jus de raisin de nos jours qui est pasteurisé, il n'est pas cachère pour le kiddush. Alors donc, c'est mieux de faire le vin. Mais seulement, il y a des gens que le vin, il s'endort. Et en halakha, au Shulchan Aruch, justement, il ne faut pas s'endormir. La nuit des seder est faite pour que les gens ne s'endorment pas. Il y a un mitzvah de faire le seder. Bien, alors on est bien dans un balagan. Alors peut-être c'est mieux de boire un grand café au début. Comme ça, on boit un café, comme ça, ça va s'endormir. Et le meilleur café pour ça, évidemment, c'est toujours le Nescafé. Parce qu'avec un tel Nes pour la sortie d'Égypte, c'est toujours le Nescafé, me semble. Je ne sais pas marqué Mishneh Brura, mais bon. Alors, on va continuer. Aviolofanaf metabel bachazeret. Donc, il prend la légume et le trempe dans de l'eau salée. Ça, c'est tremper dans de l'eau salée, c'est une référence de Richard. Les Richards, quand ils mangeaient, ils réveillaient l'appétit. Et pour réveiller l'appétit, on faisait des différentes légumes trempés dans l'eau salée ou dans le vinaigrette, ça réveille l'appétit. Donc, ça donne déjà le temps pour ce qui va venir pendant la Souda de Pessah. Parce que Chacham, ils ont instauré les carpasses pour que les enfants demandent. Mais Chacham, ils auraient pu aussi faire un autre. Par exemple, ils auraient pu dire, on prend une balai, on le met à côté du père, et après on prend un œuf, on met sur le balai, et on tourne trois fois, et on met les chaussures vers le ciel. On aurait pu faire un culte comme ça, mais Chacham, ils n'ont pas fait. Parce qu'on n'a pas demandé de faire des bêtises. On a demandé de faire quelque chose qui signifie la soirée. Alors, qu'est-ce qui signifie la soirée? Que c'est Bnei Chorin, que nous sommes aujourd'hui des aristocrates, des gens libres, mais nous ne sommes plus des esclaves. Donc, nous mangeons accoudés. Et les gens qui mangent accoudés, et les gens qui mangent comme Bnei Chorin, ils mangent toujours un manger avant le vrai repas en réveille l'appétit. Donc, c'est le réveiller l'appétit, ça, c'est le signe qu'on est aujourd'hui des riches. Hachimagi à la parpère et tapat, jusqu'il arrive au parpère et tapat. Qu'est-ce que c'est parpère et tapat? C'est manger le pain. Manger le pain, c'est-à-dire la matzah. La matzah s'appelle aussi le pain. Mais entre carpas jusqu'au mange la matzah, il va se passer une heure ou deux heures. Il faut raconter la Haggadah. Quand la Mishnah nous dit « Hachemagi la papère et tapat », ça ne veut pas dire que tout de suite on mange la matzah et le karpas. Le sens de la Mishnah, il est « On mange le karpas et on doit se contenter de manger jusqu'on mange le pain. » C'est-à-dire, entre le karpas et le pain, il n'y a rien à manger. Ça, c'est le dernier que tu manges et tu attendras maintenant jusqu'à ce que tu arrives au pain. « Et vio la fanaf matzah machazeret. » Et plus, alors, on apporte maintenant la matzah. Et on apporte chazeret, c'est le maror.
Mais en vérité,
quoi?
D'où nous vient la mitzvah de chazeret? C'est quoi chazeret?
Alors, il y a cinq espèces de maror. Nous avons vu ce matin, pour les gens qui ont assisté au cours, ce matin on avait vu, la Mishnah nous a dit, deuxième perek, Mishnah Vav, Belou, Irakot, Shadam, Yotse, Bahen, Yedeh, Chouato, Pesach, Vassil, les légumes, Tenon, Yotse, Yotse, sont de voix pendant Pesach. Bahazeret. Hazeret, le bar de nourri, l'avait traduit Chassa, laitue, Ulshin, Tamcha, Chacharvina, Maror. Alors, la Chazeret, c'est le premier des cinq. Et si la Mishnah nous a dit le premier des cinq, c'est qu'il y a un Hidur Mitzvah de prendre le Chazeret. Pourquoi c'est une Hidur Mitzvah de prendre la Chazeret? Je ne sais pas pourquoi c'est une Hidur Mitzvah. Peut-être c'est le plus amer de la Gemara Mashma. On verra bientôt dans la Mishnah que le Maror, il était archi amer. C'était un poison à tel point qu'il fallait à tout prix le tromper dans la charosse et tout de suite on va arriver. À l'époque de la Gemara, les chazeret, les endives et les laitues et le salat, ils n'étaient pas comme chez nous. Aujourd'hui, tout est devenu comme ça. Ils ont enlevé l'amertume. Mais à l'époque de la Gemara, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était très amer. Comme ça, dit la prochaine Mishnah, on verra. Alors, chazeret, c'est le premier. Donc, il y a un Hidur Mitzvah de prendre Chazeret. Je ne me rappelle pas quelle est la raison pourquoi c'est un Hidur Mitzvah. Peut-être c'est le plus amer. Peut-être il y a une autre raison. La Chazeret va Charoset. On utilise la Charoset. Donc, qu'est-ce que c'est Charoset? C'est un condiment. On met des pommes et des grenades et des dattes et un peu de vinaigre et un peu de vin sucré et des amandes et plein de bonnes choses. Charoset. Et on met deux plats. Deux plats, ça s'était ajouté à l'époque après le Korban du Beth Amikdash. Cette Mishnah, elle dit Shnei Tavshilim après le Korban du Beth Amikdash. Il n'y a plus le Korban Pesach, il n'y en a plus le Korban Chagiga. Donc on se rappelait, on fait Shnei Tavshilim, deux plats. Quel plat? D'après Amanda Amar, c'est le. Comment la Gemara nous dit, un dit orez, le riz, et l'autre, il dit tardine, épinard. Chez nous, les Tunisiens, on fait le plat épinard, ça s'appelle comment en français déjà en tunisien? Ça s'appelle comment? Hein? Moïse, tu es là?
Là.
Ah, et le grand chef, il est parti. Comment s'appelle le plat d'épinard?
La pkeïla?
Voilà, après là. Alors, comment ce minac, c'est là, elle a la racine dans la Gemara. La Gemara nous dit Tafshil shel Tardin. Tardin, c'est épinard. Donc, ça me corde dans la Gemara. Et le riz aussi. Alors, donc, mais c'est pas d'Afka. On peut faire d'autres plats aussi. On prend un œuf, on peut faire d'autres choses aussi. Donc, on apporte la charoset malgré que ce n'est pas une mitzvah. Alors, si ce n'est pas une mitzvah, pourquoi on l'apporte? Alors, la Gemara nous dit, Mishum kafa, à cause du kafa. C'est quoi kafa? Un des pshat, le pshat pashut kafa, ça veut dire que dans le maror, il y a un liquide blanc qui fait mal au ventre, qui fait mal au système digestif parce que c'est tellement fort. Et pour que ça en a moins mal, eh ben, on met un petit peu de charoset. Le fait qu'on trompe le maror dans la charoset, donc il y a du sucre et des fruits sucrés, ça adoucit un peu l'amertume. Donc, ce n'est pas une mitzvah de mettre la charoset, tout simplement, c'est pour protéger l'estomac d'une brûlure d'estomac. On voit ici à l'époque de la Gemara que Chachamim, quand ils ont instauré, non, pas la Chachamim, quand la Torah, elle a instauré de manger le maror, étant donné que le maror à l'époque de la Torah, elle faisait mal à l'estomac, donc Chachamim, ils se sont dépêchés de prendre un antidote pour qu'on n'aura pas de brûlure. C'est comme aujourd'hui, il y a des gabiscons. Alors, c'est bien de prendre des gabiscons pour ceux qui ont des brûlures. On voit que Chachamim aussi se sont intéressés à ça. Ils ont mis le charoset à la place. Rabbi Lezer Rabbi Tzadok Omer, mitzvah. Lui dit, c'est une mitzvah harosé. Alors, en quoi c'est une mitzvah? En quoi c'est une mitzvah? Pas seulement que c'est pour la santé, c'est plus que ça, c'est une mitzvah. Quelle est la mitzvah? La mitzvah de se rappeler le shibou de Mitzrayim. Parce que quand on pétrit, quand on écrase, quand on fait une pâte de charoset, ça ressemble à la boue avec laquelle les Juifs ils ont travaillé en Égypte. En plus, on prend des fruits que les Juifs sont comparés à ces fruits. Les egos, elginat, egos, yeradeti, les Juifs sont comparés à Tamar, à la date, à Pouar, patse, hayar, et les grenades. Il y a beaucoup de fruits sucrés, les Juifs sont comparés. Donc, il y a une mitzvah que les Juifs prennent conscience qu'ils sont sucrés. Que les Juifs, si c'est pour protéger l'estomac, pourquoi ce n'est pas refroid? Si c'est pour protéger, pourquoi c'est pas assur mishum refroid? Quelque chose que les gens bons sont et mangent, il n'y a pas d'issour de refroid, parce qu'il n'est pas encore malade. On mange ça pour ne pas tomber malade. Il demande. Rashi, endcharoset mitzvah, elle a le refroid. Le Bartenour divise une refroid, le vatel seraf hachazeret. Pour annuler seraf, le jus qui est dans la chazeret, shera, ve caché, le gouffre de eres, qui est mauvais, qui est dur pour le corps, comme du poison. Bon, c'est une façon de parler, poison, c'est pas du poison, mais c'est un peu du poison. C'est dur pour le corps. Alors le docteur, il demande, ça devrait être assour, michoum, refroid. Il veut parler. Moïse, tu vois? Eric Missika veut parler. Moïse, tu es là?
Oui.
Bon, c'est bon?
Je pense que dans Shabbat aussi, quand on dit il avale quelque chose de la manière normale, qu'on boit de l'anisette par exemple, mais quand même c'est pour se guérir, on ne le compte pas comme si c'était interdit. Et là, c'est on mange de la salade comme quelqu'un mange de la salade.
Oui, la salade, je veux bien, mais le charoset, on parle. Le maror n'est pas un médicament, mais la question c'est sur la charoset. Pourquoi la charoset il est permis? Pourquoi on n'interdirait pas la charoset étant donné que ça guérit? Alors un tirutz on peut dire que kol ma'achal beri'im en vo mishum refouah. Quelque chose que les gens bons sont et mangent, il n'y a pas de refouah. Ça veut dire, par exemple, on va poser les questions. Si quelqu'un, après le manger, il va prendre une cuillère de bicarbonate, ou pas une cuillère, un petit peu, le bout du couteau de bicarbonate, est-ce que ça s'est permis Shabbat? Il me semble, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me joue pas un tour, mon grand-père était un rave en Hongrie et que je l'ai connu quand il était très vieux, il me semble, il a dit que le bicarbonate, on prenait toujours Shabbat. Il me semble. Après chaque repas, il prenait 2 grammes de bicarbonate. Peut-être c'est ça le corps. Le corps, il est 7 Mishnah. Oui, docteur. Moïse, ouvre au docteur. Moïse, tu es là?
Quel docteur?
Docteur Goulet.
Oui, excusez-moi. J'ai pas de micro. Vous m'avez coupé le micro.
À tout le monde, on a coupé le micro. Vous n'êtes pas le seul. À tout le monde, on a coupé le micro parce que sinon, j'entendrais Baruch Hashem, 150 enfants pleurer derrière.
Alors, si vous voulez, quand on mange le maror qui nous pique, qui nous agresse, c'est pas de l'ordre d'une maladie. C'est de l'ordre simplement d'un niveau exceptionnel sur le plan gustatif qui est désagréable. Et donc, quand on prend quelque chose pour atténuer cette sensation, ce n'est pas du tout de l'ordre du refroid, Mais disons, bon, ce qu'on fait pour atténuer la fadeur d'un...
D'accord, j'ai entendu. C'est ça, Mahal Brim. On va continuer. D'accord. Alors, Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, il dit mitzvah. C'est une mitzvah. On a apporté aussi gufo shel pesach, le corps du korban pesach. Masgu lo gos sheni. Maintenant, on remplit le deuxième coupon. On est toujours avant la Haggadah. Masgu lo gos sheni.
Il y a eu des questions entre temps. Comment se fait-il que le maror cause des dommages alors que shluchei mitzvah est nanizokin?
Alors, tu peux poser cette kushia aussi sur le rabbin Isaac.
Ouais.
Tu connais le rabbin Abraham et le rabbin Isaac? À Kadesh Baruch Hu, il est dit, Abraham Avinu, tu fais korban ton fils. Et si le malach, il n'aurait pas dit, ne le fais pas, Abraham, il aurait pris le couteau, il aurait fait la shrita, comme on fait pour un korban. Tu poses aussi la question. Mais non! Ça ne marchera pas. Mais non, il ne peut pas arriver du mal. La mitzvah va protéger. Oui. Ou quand les 400 garçons et les 400 filles étaient sur le bateau, qu'on les a transportés à Rome, et après ils ont senti qu'ils vont être utilisés pour de l'immoralité. Alors les 400 filles se sont jetées dans la mer. Après les 400 garçons, ils se sont jetés dans la mer. Et la Gemara raconte, ils étaient musulmans de Chayola Maba. Tu vas aussi dire, ils ne sont pas morts. Évidemment, ils ne sont pas morts parce que Shlouch HaMitzvah Einam Nizokim.
Autre question.
Ça ne tient pas la route. Pourquoi ça ne tient pas la route? Parce que Shlouch HaMitzvah Einam Nizokim, c'est une règle quand il y a un petit danger. Mais c'est un danger qui n'est pas forcément. Il peut y avoir un petit danger. Sur ça, on dit « Shluch HaMitzvah Einam Nizokim ». Il y a une petite... La mitzvah fait une protection devant le petit danger. Devant des grands dangers, ou quand la mitzvah, elle est justement de se faire du mal, qu'est-ce que c'est shayach de protéger? Mais c'est ça la mitzvah. Mais c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est de manger du maror. Qu'est-ce que dirait Einam Nizokim? Mais c'est ça la mitzvah. Mais la mitzvah d'Avram était de faire la shrita de Yitzhak. C'est comme ça qu'on fait la mitzvah. Nous, la mitzvah Einam Nizokim, on dit quand un homme fait une mitzvah, il va un voyage et il peut y avoir un petit danger des bandits. Dans ce cas-là, on dit la mitzvah va protéger. Mais s'il y a beaucoup de bandits sur la route, on n'est pas sûr. C'est ça la Gemara Psachim d'Afret. Quand on dit que quelqu'un qui veut vérifier la chametz, alors quand il veut vérifier la chametz, il y a un trou dans le mur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire rentrer le mur et il faut enlever la chametz. Mais il ne faut pas mettre trop loin la main, de peur qu'il y ait un agrave, de peur qu'il y ait un scorpion qui va le piquer. Alors, il ne faut pas mettre quand il y a un scorpion. C'est dangereux. La Gemara nous dit « Shluch HaMitzvah Einam Nizokim ». Alors on dit non. C'est « Shri Chesek » et c'est courant les scorpions à l'époque de la Gemara. Et dans ce cas-là, on ne dit pas « Shluch HaMitzvah Einam Nizokim ». C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il avait une fois un bâton dans la main. Et Hachem, il a dit à Moshe, jette le bâton par terre. « Vayashlech » il a jeté le bâton « Vahil Nachash ». Il est devenu serpent. Vayivrach Moshe Mipanav. Et Moshe, il se sauvait du serpent. Pourquoi il se sauvait? Pour que le serpent ne le mord pas. Mais où est le problème? Il était en train de faire un mitzvah. Il était shluch un mitzvah. Hachem, il a demandé à Moshe. Il lui a donné les instructions. Il a dit, maintenant tu vas partir en Égypte. Tu vas faire sortir les Juifs. Donc, il était en train de faire un mitzvah. Shluch HaMitzvah Einam Nizokim. Alors, qu'est-ce que Moshe, il a peur que le serpent va le mordre? La réponse, elle est Shluch HaMitzvah. Ici, c'est Shrich HaHezek. Et c'est pour ça, le roi Shaul, quand Hachem, il demandait à Shaul HaMelech, quand Hachem, il a demandé à Shmuel HaNavi de va le vendre David. David, il est dit, Veshema Shaul Vaharagan. Ici, Shaul, il entend que je vends un autre roi. Il va me prendre pour un mourir de ma machot. Il va me tuer. Alors, Shmuel, il a dit, je ne peux pas faire ta mitzvah, Hachem, c'est dangereux. Alors, Hachem, il a dit, d'accord, je te donne une combine. Comment tu ne seras pas en danger? Il va organiser une fête et pendant la fête, tu vas venir, tu vas dire, c'était pour une fête, etc., etc. Comme ça, Shaul ne va pas remarquer. Donc, on se shri à Chazek et on ne dit pas. C'est pour ça, quand quelqu'un il a un coronavirus dans la ville et quelqu'un il va dire, bon, pour le coronavirus, je vais faire une mitzvah, il va, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne prend pas de, il prend pas de, comment on appelle ça, devant le visage, comment ça s'appelle?
Masque.
Il ne prend pas de masque et il va, quoi, il va embrasser sa grand-mère. Voilà, il va embrasser sa grand-mère et il ne prend pas de masque. Il va dire « Shlucha mitzvah eino nizukim ». Alors, il n'est pas intelligent ni comme Moshe et ni comme Shmuel Hanavi. C'est un danger, c'est Shri Chezeke. C'est un assassin. Il peut être un assassin, il peut tuer sa grand-mère. Donc, on n'a pas le droit de jouer. C'est Shri Chezeke. Quand c'est Shri Chezeke, on ne dit pas cette règle. On trouve dans la Gemara des exceptions. Que même si c'est courant de dégâts, quand même ils étaient protégés, comme Abraham ben Dosa, quand il a entendu le serpent, la rode, il a mis le pied, il a mordu, et le serpent il est mort, et lui il est resté vivant, mais ce sont des cas exceptionnels qui sont faits dans un état de Ruach HaKodesh. Hachem il a envoyé un message de savoir qu'il est protégé. Mais normalement, ça ne se dit pas comme Moshe Rabbeinu, il a vu un serpent, il s'est sauvé. Normalement, il faut tenir compte de le danger. Il ne faut pas mettre la vie en danger pour rien du tout. Masque.
Il y avait une question, c'était sur les chenets tafchilines. Pourquoi deux tafchilines? Pourquoi pas un, trois, quatre? Pourquoi deux?
Parce que si c'est un, tu m'aurais demandé deux. Non, ça, ce n'est pas une réponse. Les deux tafchilines, c'est pour nous rappeler les deux korbanot bisman bet amigdash. La Mishnah nous a dit, donc il y a le Korban Pesach et il y a le Korban Chagiga. Et à notre époque, on fait Korban Pesach et comme Chagiga, on fait deux tafshilim. Alors, on continue. Masgulo Kosheini. Maintenant, on remplit le deuxième coup. Bekan Haben Shoel Aviv. Et ici, le fils, il va demander le père des questions. Bimeindat baben, si l'enfant n'a pas encore assez d'intelligence, aviv melamdo, c'est son père, et il va dire à son fils, il faut que tu me poses une question. Ma nishtana halayla haze mikol halelot, quelle est la différence de cette nuit, de toutes les nuits, de bechol halelot, anu ochlin chametz ou matza. Toutes les nuits, nous mangeons du chametz ou du matza, ou les deux. Alayla haze, cette nuit, Kulo matzah, entièrement matzah. Comment ça se fait? Shebechol halilot, toutes les nuits, anu ochlim, nous mangeons, char yarakot, n'importe quel légume, alay lahazé maror. Et cette nuit, on mange quelque chose d'amer. Amer. Est-ce qu'aujourd'hui, on est yotze? Je ne sais pas. Nistama, oui. Bon. Alors, shebechol halilot, toutes les nuits, anu ochlim, nous mangeons. Qu'est-ce que nous mangeons toutes les nuits? Basar tzali, la viande soit qui sera grillée. Chalouk, la viande chalouk, ça veut dire la viande cuit longtemps. Ou mevushal, ou cuit normalement. Alayla haze kulo tzali. Cette nuit, le korban pesach, il est obligé d'être grillé. Shebechol halilot, anu matbilim pam achat. Toutes les nuits, nous trompons une fois. Ou il y a un autre qui dit ça, même pas une fois. Alayla haze shtei pa'amim, et cette nuit nous trompons deux fois. Deux fois, une fois les karpas, une fois les meror dans la charoset. Ou le fidat oshel ben aviv melamdo, et selon l'intelligence du fils, le père va lui enseigner. Alors, ici, dans ce mot, aviv melamdo, il y a beaucoup de choses dedans. Aviv melamdo, ça se dit facilement, ça ne coûte pas très cher. Aviv Melamdo, son père va lui enseigner. Ça y est, ces deux mots, on a été yotzei de chovateno. En vérité, la Aviv Melamdo, ici, c'est Kol HaTorah Kula, il se trouve, il faut lui enseigner toute la sortie d'Égypte et la Emouna, tout ce qui s'est passé, Pesach. Aviv Melamdo, le père doit maintenant enseigner au fils toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Matril Bignout, on commence à parler Gnout avec le mauvais côté du peuple juif. Umaseyem Beshevach, et on termine avec la belle côté. C'est quoi la mauvaise côté? Que nous avons commencé notre aventure du peuple juif avec des gangsters. Nos ancêtres, ils sont des gangsters. Terach, Avi Avraham, Avi Nachor. Terach était le plus grand gangster du monde. Il faut savoir que Terach, c'est pas simplement, il n'était pas religieux comme son fils, ou il était un peu un léger. Terach était le chef de l'idolâtrie, c'était le plus grand curé du monde. C'est un anti-religieux, anti-dieu phénoménal, ce Terach. Terach, c'est une grande, grande clipa. Intéressant. Est-ce que parce qu'il était tellement rachat, quand même, est-ce que, bien qu'il était un grand rachat, quand même Avraham Avinu le fait tchouba, ou peut-être le contraire. C'est parce qu'il était tellement un rachat, c'est pour ça, on dit toujours, quand un homme, il habite à Jérusalem, maintenant, un homme, il veut partir de Jérusalem, il veut quitter, il va partir à l'ouest. On dit, celui-là, il est complètement à l'ouest. Alors, un homme, il quitte Jérusalem, il prend un bateau, il part à l'ouest. Il va arriver où? À Gibraltar. Non, ça suffit pas de m'éloigner de Jérusalem. Il faut que je m'éloigne encore plus du Beth-Amigdash. Il va rentrer dans l'Atlantique, il voyage, jusqu'il arrive aux États-Unis, et là-bas, il va passer le Panama. Je ne suis pas encore assez à Jérusalem. Après, continue, il va passer le Grand Pacifique. Je ne suis pas encore assez éloigné de Jérusalem. Il faut que je m'éloigne encore plus. Il fait le tour de l'Inde. Et après, à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Il va tomber sur Jérusalem. Le monde et les rondes. Ceux qui veulent s'éloigner de la Torah, il va retomber sur la Torah. Alors, Moïse, tu veux ouvrir, docteur Goulet?
Alors, simplement, quand la Torah coula, c'est une évidence, a pour but de transformer la totalité des choses négatives en choses positives, en faisant en sorte qu'elles se mettent au service des choses positives et des choses positives
réalisées
par le peuple juif.
D'accord. Alors, on va continuer. Matril Begnot ou Messaïm Beshvach. Donc, il commence avec le mauvais côté et finit avec le bon côté. Quelle est la logique pour commencer avec le mauvais côté? C'est pour la modestie, pour qu'un juif ne soit pas orgueilleux. Si un juif, il se dit, oui, les Avot, avant Israël, ils étaient des tzadikim. Et de toute façon, les Avot étaient des tzadikim, moi je suis un fils des tzadikim, donc je suis déjà protégé, je n'ai pas un grand Yetzarara, étant donné que mes ancêtres, ils étaient tous des gens bien. Alors on dit, fais attention. Ne crois pas que tes ancêtres, ils étaient tous des tzadikim. Terach est un grand rachat. Et peut-être Terach, il a aussi laissé chez toi un petit peu. Il faut être très modeste. Il ne faut pas du tout se prendre pour la poire, comme on dit, pour le queue de la poire. Alors, Bedoresh, mais Arami, Ovedavi. Et il faut commencer à faire la dracha à partir de Arami. Oved Avi. Comment c'était l'histoire de Rav Steinman? Une fois, il y avait une histoire chez Rav Steinman. Il y avait une fille, très bien, elle se comportait bien, mais le maire était un guyorette, je ne sais pas quoi, l'oncle était un bandit, et la fille, elle était très bien. Alors, il y avait un directeur d'école, il ne voulait pas la recevoir. Alors, Rav Steinman, il a dit, si le bon Dieu, il aurait raisonné comme ça, eh bien, ma grand-mère Rebecca ne serait jamais mariée avec le rabbin Isaac. Avec un frère, un bandit, et avec un père, un gangster, la Betuel, eh bien, elle ne serait jamais mariée. Alors, on va continuer. Où est Doresh, mais Arami Ovedavi. Et il commence à faire la dracha depuis Arami Ovedavi. C'est quoi Arami? Lavan ha Arami. Pourquoi Lavan? Il s'appelle Arami. Aram, c'est un pays. Il y a un peuple qui s'appelle Aram et il y a un territoire qui s'appelle Aram. Et il y a deux Aram dans la Torah. Il y a un Aram qui fait partie des 70 nations, Aram de Arpachshad. Aram, et lui, il venait de ce peuple Aram. Et Aram veut dire aussi Ramaï, filou, gangster. Et pourquoi le bon Dieu, il a fait que Rivka, que Rachel et Léa, elles descendent de ce filou? Pourquoi le bon Dieu était obligé de donner au Imahot un père, un voyou, qui aime l'argent? Peut-être qu'il avait peur que les Juifs, s'ils n'ont pas un grand-père qui aime l'argent, ils vont tellement aimer la Torah et les mitzvot qu'ils vont cracher sur l'argent. À la fin, ils risquent de devenir pauvres et plus avoir d'argent. Donc, comme les Juifs, ils ont une ta'ava de folie de faire des mitzvot et des Torah, afin de un peu freiner cette ta'ava, le bon Dieu, il a mis le plus grand coureur d'argent, Lavan, comme grand-père, pour donner aux Juifs aussi un peu chercher l'argent. Peut-être, ou peut-être il y a d'autres raisons. Marami Ovedavi, Hachigmor Kola Parasha Kula. Jusqu'il termine toute cette parasha, c'est quoi la parasha? La parasha de Bikurim qui est marquée dans parasha de Kitavo. Rabban Gamliel Haya Omer. Qui c'est Rabban Gamliel? C'est Rabban Gamliel Hazaken. Gamliel Hazaken, c'est le petit-fils de Hillel Hazaken. Kol Shlo Amar Shlo Shad Varim Elu Bepestach Lo Yatsa Yedechovato. Chacun qui n'a pas dit, qui n'a pas expliqué ces trois choses pendant Pesach, pendant la nuit de Pesach, Lo Yatsa Yedechovato, il n'a pas fait son devoir. Veiluen Vasi. Pesach, Matzah ou Maror. Ce sont trois mots. Ce sont trois nourritures. Mais ces trois nourritures correspondent à une idée. Et ceux qui ne développent pas l'idée qui est derrière la mitzvah de manger le Pesach, la Matzah, Maror, tant qu'on n'a pas développé cette idée, on n'a pas fait la mitzvah, c'est phénoménal. Ça veut dire quoi, il n'a pas fait la mitzvah? C'est quelqu'un qui mange la Matzah, il mange le Pessah, il ne sait pas pourquoi, il n'est pas yotze. Le Pshat, il n'est pas yotze entièrement. En vérité, il a fait la mitzvah, il n'est pas chayav karet. Un juif qui sait qu'il y a mitzvah de manger Pessah, il a mangé le Shem Mitzvah, il est yotze. Mais il n'a pas fait entièrement la mitzvah. Ramgli veut dire, faites attention, il faut faire la mitzvah entièrement. Il faut faire la mitzvah avec compréhension, avec le cœur. Il faut vivre la mitzvah. C'est très important. Et la mitzvah, c'est très important. Et les mitzvot ne sont pas des gestes qui sont secs, des gestes extérieurs. Malgré que tu as fait la mitzvah, mais c'est mieux de faire avec empressement. Alors, il faut expliquer. Parce que la compréhension d'une chose donne le goût à la chose. Alors, Pesach, Matzah ou Maror, Pesach al Shum. Pesach, pourquoi? C'est Pesach Hamakom al Batei Avotenu b'Mitzrayim. Parce que Dieu, il a sauté, il avait pitié sur les maisons de nos parents en Égypte. Et donc, c'est le mot Pesach, veut dire sauter. Et quel rapport avec le Korban? On mange ici un Korban, on mange ici un mouton. Et on grille le mouton. Et le mouton veut dire sauter. Pourquoi le mouton il s'appelle sauter? Parce que le mouton il saute. Quoi? Le bon Dieu il sautait sur les maisons juives comme un mouton il saute. Chez Pessach, Hamakom, Albate, Avotenu. Il a sauté sur les maisons. D'accord. Il faut faire un souvenir au fait que Dieu il a sauté. Et pourquoi ce souvenir? Il est festoyé avec un mouton ou une chèvre. Parce que les moutons et les chèvres, ils aiment de sauter. Oui. Moïse, tu ouvres là. Moïse.
C'est parce oui? que l'acte de Pessah, c'est ce qui permet de transformer, c'est un saut qui permet de transformer par votre moyen, par la suite, le négatif en positif.
Très bien.
Sans
très
le Pessah.
Oui, mais ma question, elle n'était pas sur le mot Pessah. Oui, mais je comprends. Là, ma question n'était pas sur le Pessah. Ma question, elle était pourquoi pour le Pessah, on a choisi un mouton. Ça, c'est la question. Alors, on va continuer. Matza ou Maror. Matza al-Shum chez Nigalou Avotena Bemitzvah.
On me demande si le saut de mouton vient de là.
C'est quoi le saut de mouton? C'est un jeu pour enfants.
Ouais.
Ah, c'est les petites filles avec le ficelle. Oui, c'est pour ça. Il y a un pirouche qui dit pourquoi Chachamim, ils ont instauré que 30 jours avant Pessah, c'est Pourim, afin qu'on se prépare pour Pessah avec des petites blagues de Pourim. Enochanam, tu as raison. Bon, d'accord. Alors, on va continuer. Alors, je passe à Chamakom. Non, il faut comprendre. Il est marqué dans le Navi que les moutons, c'est le symbole de la joie au Beth Amikdash. Tson Kodashim, il est marqué dans le Navi, les moutons, ils vont sauter au Beth Amikdash et ça donne la joie. Les moutons, ils sautent, ça fait partie de la joie. Mais bon, il faut voir comment c'est lié avec le fait de sauter sur la maison. Matza, pourquoi Matza? Ici, la Mishnah, elle raccourcit. La Gemara va expliquer plus. Et dans la Haggadah, on explique plus. Parce que les Juifs sont sortis d'Égypte, ils manquent ici le mot « etc. ». Ça veut dire quoi? Que la pâte n'avait pas le temps de faire monter jusqu'à Niglalem et l'Armachan. Donc, l'ignan de Matzah, c'est le fait que les Juifs, ils étaient chassés et ne pouvaient pas rester. Justement, la grande question, elle est, si la Torah veut donner un souvenir de la sortie d'Égypte, elle a fait avec la Matzah. La Matzah symbolise que les Juifs étaient chassés d'Égypte. Ça veut dire, les Juifs, ils auraient voulu rester encore quelques heures et pendant ces quelques heures, la pâte serait montée et ils auraient fait du vrai pain. Mais comme les Égyptiens sont venus de les chasser, ils étaient obligés de sortir et la pâte est restée matzah et pas chametz. Ça, c'est très bien. Alors, donc, c'est le souvenir de la sortie d'Égypte. On le fait sur le souvenir d'avoir été chassé. Imaginons-nous que les Égyptiens n'avaient pas chassé les Juifs. Ils auraient dit aux Juifs, prenez votre temps. Et vous allez sortir, il n'y a pas de problème. Et les Juifs seraient sortis quelques heures après. Et bon, on est aussi sortis d'Égypte. Ben c'est bon, on est sortis d'Égypte. Le bon Dieu, il aurait été obligé de faire des souvenirs. À quel jour il a voulu qu'on fasse des souvenirs de la sortie. Alors, le souvenir de la sortie, le fait d'avoir été chassé, c'est un petit détail. À première vue, c'est un détail presque insignifiant. Et la Torah a fait de ce détail une institution. Alors ça, c'est la grande question. Il y a beaucoup d'explications dessus. Pourquoi c'est si important d'avoir été chassé? Alors, on peut dire, Pshat, il y en a, des Bnei Israël ont pris le temps de sortir en plein jour, et non par chasse par l'Égyptien. Non, c'est pas exact ça. C'est pas exact. C'est vrai que l'Égypte s'en sortit en plein jour, mais ils étaient chassés. Ce qui a écrit ça, je ne sais pas qui a écrit ça, il a oublié un passouk. Il dit que les Juifs n'étaient pas chassés d'Égypte. C'est faux. Qui gorcho mimitzraïm, ils étaient chassés d'Égypte. On les a chassés, ils ont pris des bâtons, ils ont dit aux Juifs, vous dégagez, on ne vous laisse pas une seconde. Mais c'est vrai qu'ils ont sorti que le jour. Mais pourquoi c'est si important le fait d'être chassé? Alors c'est possible que le pshat il est, parce que Yitzhak Avinu, il est né le premier jour de Pessah. À quelle heure il est né? Pashtut à midi, be'etzem hayom hazé. Il est né à midi. Et Hachem, il a dit, 400 ans, ta descendance, il sera dans un pays qui ne leur appartient pas, après ils vont sortir. Imaginons-nous que les Égyptiens, ils n'avaient pas chassé les Juifs, ils seraient sortis 3 heures après, 4 heures après, eh bien, ce n'est pas bien, Mitkayem. eh ben, il fallait que c'est exactement à midi. Donc, les goyim sont venus pour chasser. Mais il y a beaucoup d'autres pshatim aussi. Qu'est-ce que c'est une yande chasser? Alors,
on peut dire selon que c'est l'heure de la Mila. Hein, ils sont partis tôt le matin ou ils sont partis à midi?
Je n'ai pas entendu.
Ils sont partis tôt le matin ou à midi?
Ils sont partis à midi.
Les Bnei Israël sont sortis à midi?
Oui.
Ah, de BSM, vous dites de BSM, d'accord.
Maintenant, il y a une autre explication, parce qu'il y a une grande question sur Paro. Paro, il a chassé les Juifs, il ne voulait pas qu'il reste une minute. Mais il n'est pas compréhensible. Étant donné qu'un pendant toute l'année, il n'a pas voulu laisser sortir les Juifs, jusqu'à la fin, il a craqué. Alors pourquoi il saute dans l'autre extrême? Il n'aurait pas dû sauter dans l'autre extrême. Quand on dit à un homme, donnez ça, donnez, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Alors on lui fait pression. Il dit, bon, d'accord, prenez-le. Normalement, quand on lâche quelque chose, on le lâche difficilement. Mais pas quand on dit à l'autre, prends vite, je ne peux pas laisser une seconde. Mais c'est quoi ça? Paro, il a sauté des coqs à l'âne. Deux minutes avant, il dit, jamais je vous en va. Et après, il dit, pas une seconde. C'est pour nous apprendre une chose très importante dans la tête de Paro. Les gens y croient que Paro, il était resté insensible à tout ce que Moshe a dit. Moshe a parlé pendant une année, voilà, rien du tout. Il reste dur comme le fer, il ne veut pas écouter. Et à la fin, il a craqué. Mais en vérité, pendant une année, Moshe Rabbeinu parlait à un mur. Et bien, la Torah nous dit, c'est pas comme ça. Il ne parlait pas un mur. Avec chaque discours, il a convaincu Paro un peu plus. Et Paro, il était depuis longtemps convaincu. Seulement, il était têtu. Il avait une mida de gaava de ne pas vouloir se plier. C'est ça son problème. Ce n'est pas qu'il n'a pas cru. Il était convaincu depuis longtemps. Hashem Hatzadik Vaniva Amiharashaim. Seulement sa mida de têtu ne l'a pas laissé de faire tshuva. Mais il est du moment qu'après Makat Bechorot, ça a écroulé sa résistance. La résistance s'est écroulée et il a dit ça y est, je ne peux plus refuser. Maintenant qu'il ne peut pas refuser, il ne supporte pas une seconde. Il va tout de suite les chasser. À quoi ça ressemble? Un homme qui va prendre un ressort. On prend un ressort et on le pousse. On le pousse, il va toujours plus bas et plus bas. Et après, tu lâches. Et après, le ressort, pchic, il va monter en haut. Et plus que tu l'as poussé, plus il va monter en haut. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Paro, mais il était têtu. Moshe Rabbeinu lui a donné plus Emouna et Emouna. Et le jour que ça craquait, il a dit tout de suite, partez. Donc, ce yesod, il est important à savoir que tous les apikorsim du monde, dans tous les apikorsim du monde, ils restent insensibles au message de la Torah, à l'instar d'un paro. Tu parles à un apikoires, tu dis à Dieu et à la Torah, et lui reste insensible. Peut-être tu vas croire que Béhémet, il n'entend pas ce que tu dis. Et ce n'est pas du tout sûr qu'il n'entend pas. C'est possible qu'il entend. Il te donne raison, mais il ne peut pas te donner raison pour une certaine raison, parce qu'il ne veut pas faire les mitzvot ou par une autre raison. Il y a un blocage. Mais dans le cœur, en vérité, ça monte. Là, mon ami, il a un blocage. Le moment que le blocage s'enlève, c'est là que le type il va faire tchouba. Oui, Moïse, tu veux ouvrir? Moïse?
Calme. C'est surtout. Les gens qu'ils gouvernent, le paro. Parce que par rapport aux gens qu'ils gouvernent, il ne peut pas, en ne les ayant pas préparé à l'idée qu'il fallait libérer le peuple juif,
D'accord, on va continuer. Alors, Maror, pourquoi on fait Maror? Al-Shom Shemiraru Hamitzrim et Traye Avotena Bemitzrayim. Parce que les Égyptiens, ils ont rendu amère la vie de nos parents en Égypte. C'est très intéressant, l'expression « rendu amère ». Parce que pour une souffrance, il y a d'autres termes pour expliquer une souffrance. Un homme, il va prendre son doigt, il va mettre dans le feu. Ça fait très mal. Ou on va mettre le doigt, on va le mettre sur la glace qui est moins 20. Ça fait très mal. Ou on va couper, ça fait très mal. Alors, il y a beaucoup de choses qui font mal. Mais l'amertume, c'est aussi quelque chose qui fait mal. Alors ici, il y a un chidouche que les souffrances d'Égypte sont définies. L'adjectif, c'est l'amertume. L'amertume, ici, l'amertume dans le Maror, c'est un amertume physique. C'est une nourriture amère. Mais bien sûr, en Égypte, c'était une espèce d'amertume convertie à une amertume psychologique. Les Juifs, ils ont souffert psychologiquement. C'est-à-dire, pas seulement l'Égyptien, il est venu, il a frappé, et ça faisait mal au cœur, ça faisait mal au dos, ça faisait mal aux pieds, des souffrances. C'est quoi ça maintenant? Ah, votre mère est marocaine, c'est ça que vous voulez dire? Non, ça c'est dit la chana. Hein? Non. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi l'amertume? Ça veut dire quoi l'amertume? Oui, Hervé, tu veux dire quelque chose? Docteur Moïse, ouvre Hervé. Moïse. Il est où, Moïse? Moïse, il est parti en Amérique. Oui?
Non, non, je suis là. J'ai ouvert.
Oui.
Oui. J'ai une question par rapport à Pessah, Matzah ou Maror. Quand on fait la Agada, nous, Pessah, la Agada de Pessah, on prend la Matzah et on prend le Maror et on le lève. Pourquoi Pessah qu'on ne lève pas?
Vous avez un Pessah, vous?
Bon, c'est représenté vous, par le.
Vous avez un Corban Pessah?
Ouais, moi, j'ai pas, mais c'est représenté
d'accord.
Par le.
D'accord. C'est représenté un souvenir. La matzah, c'est la matzah. Le maror, c'est le maror. Le pessah, c'est un souvenir. Il faut surtout pas dire sur de la viande ou la viande grillée, toi, tu es corban pessah. Sinon, les gens, ils vont penser qu'on peut faire un corban pessah en dehors de l'amikdash. Alors, en tout cas, je reviens à ce que je disais. La sensation d'amertume, c'est la définition des souffrances. C'est-à-dire, les souffrances en Égypte, ils étaient physiques, ils étaient financiers, ils étaient dans beaucoup, mais il y avait une autre souffrance psychologique, une amertume amère. Amertume, c'est déception. Pour regarder un petit peu dans le vocabulaire, on dit un homme, il est amer. Amer, c'est déçu. Amer, c'est quand l'homme n'a pas respecté selon sa qualité. Un homme de grande valeur qui est traité comme le dernier, des derniers, beaucoup plus grande souffrance qu'un homme qui toute sa vie a été un SDF. Alors, les Juifs, ils étaient les enfants d'Avraham et de Yaakov. Ils avaient comme souvenir d'avoir été les enfants des patriarches. Et maintenant, on les traite comme les derniers des derniers. C'est une souffrance en plus. C'est un peu comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs, ils ont souffert terriblement, toutes sortes de choses. Mais une des choses que les gens, ils ont dit, c'est l'abaissement, une amertume d'avoir été traité comme du bétail. C'est une souffrance spéciale. Et cette amertume psychologique, elle se transforme la nuit du Pessah en amertume physique, en amertume de la langue. Alors la langue, elle a des papilles gustatives et il y a derrière, devant, à gauche, à droite, je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un qui a appris où c'est exactement. Pas sur toute la langue, on peut sentir tous les goûts. Il y a une partie de la langue qui sent le goût amer. Un endroit qui sent le goût qui est sucré, hein, qui sent le goût acide, etc. Et cette papille gustative doit être liée dans le cerveau avec un sentiment que les Juifs ils ont senti en Égypte. En tout cas, c'est ça qui est marqué dans la Mishnah. Mireru Al-Shem Shemiraru, Hamitzrim et Chayotem Mitzrayim, les Égyptiens, ils ont rendu amer la vie de nos parents en Égypte. Bon, on a déjà dépassé l'heure. Alors, maintenant, je m'adresse à vous deux choses. Première chose, demain matin, on fait Bezrat Hashem cours, on continue notre cours de Meseret Yoma à 9h30 le matin. Vous pouvez vous connecter, on fait Meseret Yoma. La deuxième chose,
je profite pour expliquer cette histoire. Donc, les gens doivent garder ce lien et le numéro de réunion qui leur a été fourni sur le groupe de Rav Brand. Et vous pouvez entrer, comme je l'ai expliqué sur le groupe tout de suite, à tout moment, lorsqu'il y a un cours, vous allez attendre dans la salle d'attente le temps que le Rav arrive. Dès que le Rav est présent, il va vous faire entrer directement dans la salle de réunion pour commencer le shiur. Et donc, vous pouvez vous connecter, vous n'avez pas besoin qu'on vous renvoie un message, vous pouvez y aller de vous-même au shiur que vous voulez, 9h30, 14h, ou bien 21h. Continuera.
Alors, la deuxième chose, que s'il y a quelqu'un qui ne peut pas sortir de la maison ces jours-là, je ne sais pas si ça arrive chez vous, en tout cas, s'il y a des gens qui ne vont pas aller au boulot ces temps-là, ils ont du temps libre, étant donné qu'il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas frapper sa femme, il ne faut pas frapper les enfants, il ne faut pas exploser. Il y a plusieurs halakhot pour quelqu'un qui est confiné dans sa maison. Alors, la meilleure chose pour ne pas exploser, c'est d'écouter un cours de Torah. Il n'y a pas mieux. Maintenant, si quelqu'un il a déjà écouté un, deux, trois cours, il ne peut pas plus, il doit s'occuper autrement. Alors, moi, je conseille, par exemple, de jouer d'échecs. C'est une Mishnah dans ma Maseret Ketubot que j'ai citée hier. Que si une femme, elle est riche, et le père, il a donné une grande dot, elle n'a pas besoin de travailler, elle a trois, quatre bonnes. Il faut qu'elle s'occupe, par exemple, jouer d'échecs. Comme ça, la Gemara dit « artir ». Alors, jouer d'échecs, ça occupe le cerveau. Alors, vous pouvez faire des parties d'échecs. Mais je veux dire une autre chose. Et si quelqu'un, il est intéressé de faire un cours privé avec un avrech, il y a des avrechim qui sont prêts à faire des cours privés pour une personne ou pour deux personnes ou pour trois personnes. Il y a d'autres cours qui peuvent être organisés. Si vous pouvez aider, il y a des avrechim qui ont besoin un peu de parnassa. Pas toujours l'avrechim, ils reçoivent des lingots. S'il y a quelqu'un qui veut un cours maintenant pendant les vacances imposées, alors il peut me téléphoner. Je lui donnerai le numéro de téléphone. En Eretz Israël, il y a des avrechim. Ils sont prêts à faire des cours. Alors il peut me téléphoner. Et je lui donnerai le numéro de téléphone et ce sera une double mitzvah, une triple mitzvah, une mitzvah d'étudier, deuxième mitzvah donnée par Nassa, troisième mitzvah de ne pas crier sur sa femme. Parce que plus qu'on est occupé de l'ernen, moins on est nerveux à la maison. C'est badouk ou menoussé. Quelqu'un m'a dit, je sais.